Une lecture avant la prédication, Apocalypse 13. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard. Ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie, et là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Les peuples adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu. La tente où il demeure et ceux dont la demeure est au ciel. Il lui fut même permis de faire la guerre aux membres du peuple saint et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé, que celui qui a des oreilles écoute. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que les membres du peuple saint doivent faire preuve d'endurance et de foi. Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes impressionnants, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par ces signes qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite et sur le front. Personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe. Soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à ce nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre à la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Jusque-là.
J'ai trouvé que ce titre de l'épisode 5 de Star Wars, La guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, correspondait bien... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le micro, pardon. Ah non, il est allumé. Ouais. Donc tout va bien. Ce chapitre de l'Apocalypse, Apocalypse 13, l'Empire contre-attaque. Sauf que dans Apocalypse 13, il n'y a pas de Dark Vador, et qu'il y a une bête, même deux. Celle qui vient de la mer, surtout celle-là d'ailleurs, et celle qui vient de la terre, des bêtes impressionnantes hein, et qui font impression. D'ailleurs, c'est le but de l'Apocalypse, hein, faire impression, des tableaux qui font impression. Alors vous me direz quel rapport avec Noël et la période de l'Avent ? Et c'est une bonne question, effectivement. Alors c'est parce que c'est une série sur l'Apocalypse et je voulais pas l'arrêter trop tôt, mais je rappelle quand même les deux punchlines. Ah voilà, la bête qui sort de la mer, une belle illustration du 16e ou 17e siècle. L'Apocalypse 13 et l'Avent, quel rapport ? Deux punchlines qu'un théologien donnait pour l'Apocalypse. D'abord que l'histoire est tragique. Et le chapitre 13 est un peu tragique. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse sont tragiques, que nous avons vu il y a 15 jours ou 3 semaines. Et l'actualité est tragique. Encore un mort hier soir, quelque part en France. Mais une espérance est possible. Ça, c'est un punchline de l'Apocalypse. Une espérance est possible, avec la petite bougie dont nous avons parlé tout à l'heure. La flamme de l'espérance est possible. Et cette espérance, elle naît dans une petite mangeoire, dans une étable à Bethléem. L'espérance grandit là. Cette espérance est Dieu devenu homme en Jésus-Christ. C'est le ciel qui touche la terre et qui nous fait naître à l'espérance. Il y a dans l'Apocalypse une espérance qui est bien là. Et c'est d'ailleurs, c'est la journée de Noël, le 17, c'est sur la lumière dont nous avons parlé, cette lumière d'espérance. Elle arrive, la lumière du monde. Et mais cela ne va pas sans mal, et surtout sans le mal, qui est toujours là, sous la forme d'une bête. Alors, le titre, Apocalypse 13, la bête. Mais quelle bête ? Alors, je me souviens, il y a quelques dizaines d'années, j'étais en voiture dans une rue importante de Bruxelles, dans ma Diane, vous savez, une sorte de deux chevaux améliorés, et à côté de moi, il y avait un ami américain, et on passe devant le bâtiment de la Commission européenne, et il me dit « Oh, here's the beast !»« Oh, voilà la bête !» Alors j'ai cru un moment qu'il avait vu le Premier ministre belge, mais non, il avait vu la Commission européenne qui comptait 10 membres, à l'époque, ou 11, je ne sais plus trop, mais enfin bref, comme les 10 cornes, et qui possédait un ordinateur ultra-puissant qui savait tout sur le monde entier. C'est ce qu'il m'a dit, l'ami américain. Et je dois dire que j'y avais jamais pensé. Je passais devant 2-3 fois par semaine quand j'étais à Bruxelles, et j'avais jamais pensé que la bête, c'était ça, la Commission européenne. Puis je me suis dit, est-ce que c'est la bonne interprétation quand même de mon ami américain ? Non, peut-être pas. Et puis, j'ai regardé sur Google et j'ai tapé « bête de l'Apocalypse ». Et j'ai vu Hitler, j'ai vu l'Europe, effectivement, j'ai vu le pape aussi, j'ai vu l'oncle Sam, j'ai vu Einstein, j'ai vu la télévision, la bête de l'Apocalypse, j'ai vu Bill Gates. Puis je me suis demandé si c'était pas Google, la bête. Alors tout le monde y passe, et même nous, les protestants, on a été vus à une certaine époque comme une manifestation de la bête. Alors devant ce coup bas, on a envie de dire, comme on disait dans les cours de récréation, c'est celui qui dit qu'il est. Mais nous ne sommes pas des enfants, et il nous faut retourner au texte biblique avec une prudence redoublée quand même. Ou avec de cette sagesse, voilà une image de la bête surgie de la mer, mais avec une sagesse redoublée, comme il est dit à la fin du texte, au verset 18, c'est ici qu'il faut de la sagesse. Ah oui, il faut de la sagesse quand on lit l'Apocalypse. Alors j'ai divisé en trois points mon petit speech de ce matin. La bête pour qui ? La bête pour eux, la bête pour nous et la bête pour moi. Alors, premièrement, la bête pour eux. Que représente la bête pour les chrétiens du premier siècle, à qui s'adresse Jean, qui est sur l'île de Patmos et qui reçoit cette révélation et écrit l'Apocalypse. Cet Apocalypse qui sera comme les lettres de Paul ou les évangiles lus dans les églises du premier siècle. On entend. Et donc, ça s'adresse à eux en premier lieu. Et il faut se souvenir que Jean, pour décrire ce tableau, utilise des éléments qu'il connaît et qui sont connus aussi de ses auditeurs. Il s'agit d'une vision, mais pas d'une vision, on va dire, tombée du ciel, mais pas tombée du ciel à l'état brut, comme s'il y avait un écran plasma HD pour Jean inscrit dans le ciel, mais Jean est inspiré aussi par le Saint-Esprit, l'esprit de prophétie qui le traverse, mais son récit s'ancre sur des éléments qu'il maîtrise. Il y a par exemple un ancrage dans l'Ancien Testament. Vous avez, ça ressemble au léopard, l'ours, le lion, ça ressemble au prophète Daniel qui a écrit aussi dans le genre apocalyptique. C'est un genre littéraire avant tout, l'Apocalypse, avant de devenir l'Apocalypse que nous connaissons, qui veut dire la révélation, nous l'avions aussi. Et donc, dans le prophète Daniel, il y a ces animaux qui représentent, ou cette statue qui représente les quatre grands empires assyriens, perses, grecs et romains. Et donc, on ne va pas développer, mais Jean utilise des images connues par ses auditeurs. Et puis, il y a un autre ancrage qui est dans l'actualité de Jean, c'est l'Empire romain. Il n'y a aucun doute que Jean vise d'abord l'Empire romain, et cet Empire romain qui, pour Jean, fait figure de monstre, qui s'oppose à Dieu. Et on peut penser que la première bête représente la puissance politique et militaire de l'Empire romain qui cherche à dominer le monde. Il s'agit d'un système totalitaire, c'est-à-dire qui veut tout englober, veut être puissant dans tous les domaines. Il domine politiquement, mais aussi économiquement. Et on le voit à la fin du chapitre 13, il y a cette petite de l'Apocalypse au sujet de la marque de la bête sans laquelle on ne peut plus faire de commerce ou transférer de l'argent. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe. Il y a une question économique là. Il y a l'argent. Il y a la domination de l'argent. Il faut, pour faire la moindre transaction, il faut l'accord de la bête. Alors, beaucoup d'encre a coulé sur ce sujet, il a failli y avoir du sang, mais l'allusion en tout cas signale les répercussions dans le monde économique de ce système totalitaire et autoritaire. Si tu ne fais pas partie de l'Empire, si tu ne te plies pas à ses règles, si tu ne t'agenouilles pas devant l'empereur ou sa statue au moins une fois par an, tu ne pourras pas réussir dans les affaires. Ça, c'est la réalité de l'époque. Les chrétiens sont limités. Ils vont pas réussir économiquement. Et on peut voir aussi dans la deuxième bête la religion de l'Empire, la religion impériale. Et nous avons déjà parlé du culte de l'empereur et nous avons lu un extrait de ce que les gens devaient dire sous Domitien, un empereur important, avec des mots qui laissent songeurs. Ils devaient dire donc au moins une fois par an, je cite, « Tout-puissant, roi des rois, éternel, fils de Dieu », à l'empereur romain. Et quand la bête porte des noms blasphémateurs, comme il est dit dans Apocalypse 13, c'est une référence directe à ces noms que se donnaient les empereurs et qui n'appartiennent qu'à Dieu, mais qui sont revendiqués par les empereurs romains. De même, les paroles arrogantes, vous l'avez lu tout à l'heure, le verset 5, se réfère très certainement à cette attitude arrogante de ces empereurs. Et le terme pour arrogant, c'est « mégala », qu'a donné mégalomanes. C'était des mégalomanes comme on n'en fait plus, j'ai envie de dire, mais comme on en fait encore, en fait, des mégalos de tout poil. Beaucoup moins sympathique était, enfin non, il n'était pas sympathique, mais l'empereur particulier, semble-t-il, que Jean vit, c'est Néron, qui vit dans les années 60. Les historiens disent aujourd'hui que la conduite odieuse de Néron et ses prétentions blasphématoires ont profondément impressionné une large couche de la population romaine. Il laisse un souvenir lourd, impressionnant, mais aussi une légende. Je vous lis cette légende que j'ai lue dans un commentaire biblique. On sait de source sûre qu'aux alentours des années 100, alors qu'il est mort depuis quelque temps, on parlait ici et là de Néron en affirmant qu'il avait miraculeusement échappé à la mort, qu'il avait voulu se donner en 68. La légende parle même qu'il a été enlevé et maintenu surnaturellement en vie. Néron. Moi, ça me fait penser à Michael Jackson. La rumeur. est passé, qu'il était encore vivant. Michael, si tu m'entends, mais le complot, on a voulu nous faire croire qu'il était mort, mais il est bien vivant. Vous savez, le complotisme aujourd'hui. Et c'est intéressant de mettre cette histoire de Néron, mort mais pas mort, toujours vivant, avec le verset 3 d'Apocalypse 13. Une des têtes était comme égorgée, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et on voit une sorte d'imitation de la résurrection de Jésus. Il est atteint d'une blessure mortelle, mais il est guéri. Et il faut voir dans toute l'activité de la bête ce désir de copier Christ. Elle fait des miracles. Elle se dit victorieuse. Et c'est d'ailleurs le sens du mot « antichrist ». Il ne faut pas confondre l'anti avec « anté ». Anté avant le Christ. Ou anti contre Christ. Non, anti dans son sens grec du terme veut dire à la place de. Quelqu'un qui cherche à remplacer le Christ, l'antichrist. L'antichrist qui n'est pas dans l'Apocalypse, mais qui est dans le terme antichrist, pas dans l'Apocalypse, mais dans d'autres livres de la Bible. L'antichrist, celui qui veut se mettre à la place de Christ. Et Néron faisait un antichrist de premier choix. Et le chiffre 666, verset 18, on l'a lu, c'était le dernier mot, 666, qui désigne le nombre de la bête, pourrait se référer à lui, parce que en hébreu, les lettres ont une valeur numérique. Et bien, quand on prend les lettres équivalentes en hébreu pour Kaiser, Néron, Kaiser, Néron, on arrive à 666. Le problème, c'est que Jean écrit en grec pour des Grecs. De même, on peut s'interroger sur les sombres calculs pour arriver à 666 avec certains noms, le pape par exemple, vicaire du Fils de Dieu. En latin, ça pourrait faire 666. Ronald Wilson Reagan, vous pouvez compter, c'est 3 fois 6. Et puis, il y a tout un discours avec Marlboro aussi, à mon époque, Coca-Cola. Alors, on peut toujours... Alors, ces calculs peuvent sont sujets à caution, évidemment, bien évidemment. Moi, je me dis que si on mettait mes deux prénoms, Eric Charles, avec mon nom, Vanderdouce, qu'on le traduisait en arménien, et qu'on enlevait le S à Charles, on pourrait peut-être arriver à 666. Peut-être. Alors, l'imagination débordante, comme disait Henri Blocher, ce n'est pas des ailes qu'il faut donner à notre imagination, mais du plomb. Par contre, ce qui est certain, c'est la valeur symbolique de ce chiffre. Le chiffre 6 dans 666 est répété 3 fois pour bien montrer que c'est le chiffre qui doit retenir l'attention. Et le chiffre 6 est le chiffre de la perfection, 7 moins 1. La perfection est de la divinité ou de Dieu, moins 1. Et à chaque fois, ça se répète. La perfection 7 et 6, c'est 7 moins 1, oui. La perfection moins 1, le déficit de perfection. Le 6 est donc le chiffre à la fois de la prétention à la perfection, 6, mais aussi de l'imperfection irrémédiable. Et cela, 3 fois, 666, 6, 6, 6, 7 moins 1, 7 moins 1, 7 moins 1. Dieu est 3 fois saint, la bête est 3 fois imparfaite, mais prétendument parfaite, qui cherche à rejoindre la perfection, irrémédiablement déficiente dans sa prétention à la perfection, mais échec irrémédiable. La bête cherche à imiter Dieu, mais son entreprise est vouée à l'échec. Et donc 666 est la marque de l'échec. Ceux qui portent cette marque n'auront pas un code-barre sur le front, mais porteront la marque de la bête, c'est-à-dire celle qui prétend être Dieu dans sa perfection, mais qui échoue irrémédiablement et lamentablement. Alors on pourrait tenter d'expliquer d'autres visions de la bête, de l'Apocalypse 13, mais il faut avancer. Mais Ce qui ressort clairement de cette vision, comme le reste de l'Apocalypse, c'est son ancrage dans l'actualité. La bête, pour eux, à l'époque, au 1er siècle, à la fin du 1er siècle, pour eux, c'est du concret. Mais Jean est aussi prophète. Et il voit plus loin, et il semble concentrer toutes ces images sur l'Empire romain et peut-être Néron, mais il ne veut pas l'identifier non plus d'une manière précise. Il aurait pu citer Néron ou autre chose, mais en tant que prophète, il veut ouvrir son discours, sa vision, au-delà de son actualité. Il s'ouvre à l'eschatos, à l'eschatologie, les fins, les derniers temps. D'ailleurs, Paul mentionnait tout à l'heure cette réunion jeudi soir avec le Vivre Ensemble. Et il y avait un imam là qui parlait du fait que, avec tous ces événements du 7 octobre, il y avait de plus en plus de discours eschatologiques. C'est lui qui parlait. Je ne savais pas que les musulmans parlaient aussi d'eschatologie. Et il avait raison, enfin, de parler. On parle maintenant de la fin des temps parce qu'il semble. Certains parlent de la fin des temps parce qu'il semble que les choses s'accélèrent. Jean est bien ancré dans l'actualité de son temps, mais il met aussi les voiles dehors pour aller naviguer dans le grand large de la fin des temps. Et il le dit lui-même dans une autre lettre, dans un autre ouvrage, un autre livre, la première lettre de Jean. Il dit, il y a maintenant beaucoup d'antichrist. Maintenant, à l'époque et maintenant, aujourd'hui encore. Et en fait, l'Empire romain et Néron ne sont que des avatars. On connaît le film, on connaît le mot avatar pour Internet, mais qui veut dire simplement manifestation. Des manifestations de toute la contre-attaque de l'Empire qui va durer un temps limité, mais qui va durer pour plusieurs générations. Alors va-t-il y avoir une intensification du conflit? Y aura-t-il une concentration en un seul et même système des forces de l'Empire? On peut pas répondre avec précision sur ces questions, mais la bête est là, comme elle était pour ceux du 1er siècle. Mais qui est-elle véritablement? La bête pour nous. Qui est cette bête qui sort de la mer? Moi, je vois bien Gérard Depardieu qui sort de l'eau sur une plage de Deauville, hein, avec ses 120 kilos ou 125 peut-être. Quelle bête en tout cas. Bon, je plaisante. Mais sérieusement, aujourd'hui, qui est la bête? Ne regardez pas votre voisin, il n'est pas plus bête que vous. Mais si on veut absolument des noms, on peut penser quand même à Hitler, hein, une figure de l'Antichrist, une figure de la bête. Et Staline, hein, c'est Mao là qui arrive, avec son petit livre rouge. Bon, vous savez qu'en France, tous les intellectuels parisiens et autres, dans les années 70, étaient maoïstes. Mais Mao a tué des millions de personnes. Apocalypse Now. Et avec ces camps de travail et ces camps de redressement culturel, de rééducation culturelle, terrible. Et puis, il y a Staline, hein, avec ses purges, enfin les purges staliniennes, et la famine en Russie et en Ukraine, qu'il a provoqué lui-même avec des millions de morts. Il y a Pol Pot, hein, et les Khmers rouges, le Cambodge, avec ses tas d'ossements retrouvés après. Il y a Amin Dada, en Ouganda, on a 300 000 morts avec lui, et on a trouvé des crânes dans son frigo. Bon, il y a des figures de l'Antichrist, comment est-ce possible? Une folie meurtrière, le mal à l'état pur. Alors c'est assez facile avec les gens qui ont disparu, c'est facile avec ceux qui sont plus loin. Je ne vais pas donner de nom pour aujourd'hui, mais parfois il faut regarder vers chez nous, du côté de l'Occident, et des systèmes totalitaires qui se prétendent à l'universel avec un pouvoir de séduction énorme. Et moi, je pense à la toute-puissance de l'argent. J'ai pas mis des dollars, j'ai mis des euros. Plus près de chez nous, là aussi, un système, une économie qui cherche à tout englober. Aujourd'hui, tout est soumis à l'économie, l'éthique. Ce qui est bien, pas bien, c'est soumis à l'économie. Ouais, mais est-ce que ça va nous coûter? C'est surtout ça. Qu'est-ce que ça va nous coûter? La science, la politique, évidemment. L'écologie aussi, tout est soumis à la préservation de la planète, est soumis à l'économie. Ouais, mais si on construit cette autoroute complètement inutile entre Castres et Toulouse, 50 km pour gagner 20 minutes, mais qui va coûter des millions. Mais non, elle va pas coûter des millions, elle va rapporter des millions. Et c'est ça qui compte. Le système totalitaire de l'argent. Il n'y a rien qui se fait sans l'accord de la bête de l'économie mondiale et aussi personnelle. Rien ne peut se faire sans sa permission. Il faut se rendre compte, et j'aime le rappeler aussi, et j'aime me le rappeler personnellement, qu'une infime partie de la population mondiale qui décide, c'est une infime partie de la population mondiale qui décide pour toute la planète. Est-ce qu'il n'y a pas là un des aspects de la bête? Alors, vous vous rendez compte que j'ouvre quelques portes, mais je vous laisse le soin de refermer ces portes s'il le faut. Et je prétends pas épuiser le sujet de la bête, mais je donnerai encore trois pensées à ce sujet. Et je veux souligner par là ce qui est vraiment important, plus en tout cas que les tentatives d'identification de la bête. Que faire contre la bête? Eh bien, devant le pouvoir de séduction de la bête, se départir de toute naïveté. Il faut cesser d'être naïf et de croire, comme le film de Jean-Yann, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et moi j'ai été frappé, non pas par le film de Jean-Yann, mais le film, la trilogie, Le Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans les années 2000, mais on est là dans le combat contre les forces du mal, contre le pouvoir de l'anneau, le pouvoir de séduction de l'anneau qui donne le pouvoir. Et là se trouve une petite communauté qu'on appelle la communauté de l'anneau, composée de gens assez humbles, mais certainement pas naïfs, avec des hobbits, et des elfes, et je sais plus comment ils s'appellent, les petits nains là, mais tout barbus là, qui sont sympathiques aussi. Mais tous luttent farouchement, car ils savent quel est l'enjeu, c'est la victoire du bien, la communauté de l'anneau, qui sont pas naïfs, qui savent que ce pouvoir, même pour eux, même le hobbit principal, j'ai oublié même son nom, est attiré par ce pouvoir de l'anneau. Non, pas de naïveté par rapport à la séduction de l'anneau. Alors certains trouvent le film assez sombre, et il l'est, mais c'est ça la bête. C'est sombre. On n'est pas dans un jardin d'enfants, la terre est le théâtre d'une guerre, l'Empire contre-attaque, et nous sommes dans la terre du milieu. Il nous faut prendre les armes spirituelles, évidemment, de la foi, et nous mettre résolument en ordre de bataille, pour le bien. Et par rapport à toute l'arrogance de la bête, cette mégalomanie, cette prétention d'atteindre le statut de sauveur autoproclamé, cet appel sournois à l'adoration, nous devons opposer notre vigilance. Il faut pouvoir dénoncer toute tentative de que des hommes, des groupes, des gouvernements qui veulent se faire calife à la place du calife. Quand l'économie, par exemple, joue au divin, il faut la dénoncer. Quand la science joue à l'apprenti sorcier, quand les politiques se croient sortis de la cuisse à Jupiter, ou comme disait Coluche, de la cuisine à Jupiter. Il nous faut rester vigilants et les démasquer, les remettre à leur place. Et là, mon ami, tu dépasses les bornes. Tu as un mandat limité sur cette terre. Tu dois rendre compte aussi. N'oublie pas, si tu le peux, que l'orgueil précède la chute. Être des sentinelles comme sur la muraille de Jérusalem sous Néhémie, vous savez, les ouvriers tenaient la truelle dans la main et l'arc à flèche dans l'autre. Pour construire la ville, on est des bâtisseurs d'un monde meilleur, mais vigilants par rapport à l'arrogance de la bête, prêts à dénoncer cette mascarade. Et puis, devant la puissance de la bête, choisir tout simplement la résistance, cette puissance de mensonge, cette puissance de séduction, cette puissance économique, militaire, politique, spirituelle. Il nous faut rentrer en résistance. La Bible parle d'endurance ou de persévérance. Prendre le maquis dans un contexte d'occupation et d'oppression et lancer de temps en temps des opérations de sabotage par l'Église. Le grand espoir pour le monde, pour notre humanité, l'Église de Jésus-Christ. Pas l'Église institution, l'Église faite de personnes qui sont à Christ et qui portent le sermon sur la montagne autour d'eux. Mon père me racontait qu'il avait mis du sucre dans les réservoirs d'essence des V2, ces premiers missiles qui étaient pointés sur l'Angleterre. Et les V2 étaient en Hollande. Il avait mis du sucre dans les réservoirs. Et je ne sais pas si c'est vrai. Je ne lui ai jamais demandé. Mais maintenant que... Bon, quand j'étais gamin, je disais « Oh, papa !» Mais bref, le sabotage. Entrer en résistance, et ce ne sera pas du gâteau pour les chrétiens de ces temps-ci, et qui sont aussi pour nous. La bête nous fait la guerre. Et cet appel à la persévérance, résistance, Jean le lance au milieu du chapitre 13 en disant « Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira en captivité. » Ça sonne un peu défaitiste, hein ? Ça semble inéluctable. Mais il ajoute « C'est ici la persévérance des saints, l'endurance des saints, la résistance des saints. » Ma mère, je parlais de mon père, je parle de ma mère, une sainte femme, Simone Émilienne Roustin, comme j'aime dire son nom. Elle, dans les années 42-43, elle était à Saint-Étienne, et elle nous racontait aussi, et là je crois que c'est vraiment vrai, qu'elle passait devant la Commendatour à Saint-Étienne, elle était 14-15 ans, hein, et avec la croix de Lorraine sous sa veste. Et elle chantait « Vous n'aurez pas l'Alsace, c'est là. » Entre ses dents. « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. » Un acte de résistance, symbolique, mais pas que. Et la bête pour moi, la bête en moi, je voulais pas terminer sans en parler. C'est facile de parler de la bête pour eux, de la bête pour nous, enfin, société, sociétale, etc. Mais la bête pour moi et la bête en moi, il faut pas nous sentir trop en dehors du combat, ne pas nous déresponsabiliser. Non, il y a une bête aussi qui sommeille en nous, au fond de nous, et qui parfois prend le dessus, une bête puissante qui fait, qui qui fait que nous faisons ce que nous ne voulons pas faire et que nous ne faisons pas ce que nous voulons faire. Voilà, je ne fais pas, dit Paul dans l'Épître aux Romains, je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire parce qu'il y a une bête. Il y a une bête en lui et en moi qui agit comme une puissance, une bête séduisante, qui nous invite au plaisir éphémère de la désobéissance. Une bête passée maître dans l'art du camouflage et qui peut prendre tous les masques possibles, même celui de l'ange. Pascal, Blaise Pascal, mathématicien, philosophe et théologien et chrétien, qui disait si bien, je vous l'ai peut-être déjà dit ici, l'homme n'est ni bête ni ange. Le malheur veut que lorsqu'il essaye de faire l'ange, il fait la bête. C'est de circonstance, hein, quand on parle de la bête. Quand j'essaie de passer pour ce que je ne suis pas, à savoir un petit sauveur, un petit sauveur de l'humanité, ou sauveur de ma propre vie déjà, ou sauveur peut-être même de mon entourage, pourquoi pas. Mais quand je me fais sauveur, je prends la place du Christ, seul sauveur, et je fais le jeu de la bête qui sommeille en moi. Le problème, c'est quand il veut faire l'ange, il fait la bête. Et on peut être frappé par la capacité fantastique qu'a l'être humain à se transformer en monstre, en bête. Dans le Seigneur des Anneaux, encore une fois, il y a Kate Blanchett, la belle blonde là, qui joue une elfe, mais qui à un moment est tentée par l'anneau et elle se transforme. Et pendant 2-3 secondes, on voit à la place de Kate Blanchett, on la reconnaît parce qu'elle a encore les cheveux blancs, un monstre. J'ai essayé d'avoir l'image du monstre de Kate Blanchett là, j'ai pas trouvé. Et j'ai l'impression que Kate Blanchett les a fait disparaître d'Internet parce qu'elle était trop monstrueuse là. Mais c'est fou, même Kate Blanchett, même une elfe angélique, est peut-être séduite par le pouvoir de l'anneau. Et cette bête en nous, qui sommeille en nous, nous rappelle constamment notre besoin de Dieu, de sa grâce, de sa transformation en nous, comme on en a parlé hier à la journée Alpha, besoin de retourner à lui et de dépendre de lui et de soutenir avec lui ce grand combat auquel Dieu nous invite, un combat qui commence par soi-même, et de se mettre résolument dans le camp du bien. Et l'Apocalypse, un appel à rejoindre la communauté de... Rejoindre, oui, avec Dieu pour ce combat, rejoindre la communauté non pas de l'anneau, mais la communauté de l'agneau. À l'agneau sur le trône. Choisir le camp du bien. Revenir, rentrer dans la communauté de l'agneau. À l'agneau sur le trône de ce Jésus, celui qui nous aime. Et qui nous appelle à sortir des ténèbres, à sortir du côté sombre de Dark Vador, pour passer du côté de la lumière, de son côté. Que nous puissions tous faire partie de la communauté de l'agneau. Amen.